Bonsoir à toutes et à tous. Entrons dans le temps du débat consacré ce samedi aux Infox. Infox, fake news, faits alternatifs, post-vérité, ces termes qui disent la crise d'un espace public saturé d'informations et la perte de légitimité des médias traditionnels ont de nouveau beaucoup été entendus cette semaine, à l'occasion bien sûr des élections présidentielles américaines, mais aussi de la présentation le 12 novembre dernier par le Forum Information et Démocratie de 250 recommandations pour lutter contre ce qu'il appelle l'infodémie, la pandémie de fausses informations, à l'occasion évidemment du Covid-19, ou devrait-on dire de la Covid-19. Comme pour confirmer les craintes de ce groupe de travail sous l'égide de Reporters sans frontières, cette semaine a aussi été celle du succès inattendu d'un film mis en ligne le 11 novembre, Hold Up, qui emprunte tous les codes de l'enquête journalistique et du documentaire au service d'une sorte de synthèse des mécanismes et des thèses complotistes. La bataille pour dire le réel fait rage, et ceux qui avaient traditionnellement pour fonction de relier cette réalité, journalistes et scientifiques en tête, sont désarçonnés, il faut bien le dire, dans un univers médiatique et numérique qui a remis en cause leur légitimité, ce qui a sans doute permis aussi à des personnes jusque-là inaudibles, absentes, invisibles, il faut bien le dire, pour reprendre les termes utilisés par la chercheuse Nona Meyer, d'accéder aussi à la scène médiatique et donc politique. Alors Infox, fake news, qui détient la vérité? C'est le thème ce soir du temps du débat du samedi, une émission à écouter en direct sur France Culture, franceculture.fr, et quand vous le souhaitez, en podcast sur l'application de Radio France.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
8 juillet 1979, tous les pairs des prix Nobel ont été rassemblés par des unités des troupes des Nations Unies. Suivez.
It's just fake news.
Et ils ont été contraints, sous la menace, à donner des échantillons de sperme dans des petits flacons en plastique qui sont entreposés dans les sous-sols de l'immeuble du Rockefeller Center sous la patinoire.
On m'appelle Conspi Mamie. Mon partenaire, c'est Sides Horn. On est des journalistes parce qu'on enquête et on ramène des preuves.
Vous savez ce qu'ils mettent dans l'eau? Du fluor. Ouais, du fluor. Sous prétexte que ça...
Vous pensez que les journaux télé mentent ?
I know.
C'est grotesque.
I know. Je le sais. Je ne le pense pas. C'est pas la question, ok ?
Ça vous ôte toute liberté d'esprit et toute créativité. Et ça fait de vous un esclave de la société.
Alors, pour ceux qui ont un peu les yeux ouverts, évitez d'aller vous faire vacciner par ce vaccin du coronavirus qui va certainement pas soigner le paludisme, encore moins le coronavirus, et certainement vous injecter d'autres choses.
Attention, là, je vous parle d'un complot.
FFP2, c'est les 4 derniers chiffres des coordonnées bancaires des banques américaines. Parce qu'en fait, quand vous achetez les masques, ça part direct dans les banques et Wall Street.
C'est la preuve absolue que ça pouvait pas être lui.
Dernier secret que j'ai appris hier, renseignements généraux, donc c'est source sûre, ça sort du four, ça. Les Daft Punk, le groupe de musique électronique, et depuis toujours et en réalité, Alain Souchon et Laurent Voulzy.
Je vous jure, George Bush, il savait ce qu'il disait quand il a dit « Nouvel ordre ».
Difficile de dire le vrai du faux, de distinguer les vrais conspirationnistes, évidemment, des sketchs qui ont été mixés dans ce petit montage par Vanessa Nadjar sur fond du film « Complot » de Richard Donner avec Mel Gibson. C'est en 1997, c'est pas nouveau ces questions-là. Évidemment, Christophe Deloire, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes en studio avec nous ce soir, vous êtes le secrétaire général de Reporters sans frontières et le président donc du Forum Information et Démocratie qui présentait cette semaine ces 250 recommandations à l'Alliance pour le multilatéralisme dans le cadre du Forum pour la paix. Voilà, j'ai été très clair et très précis. C'est important quand on parle de fake news. On est également par téléphone avec Anne Bellon. Bonsoir. Vous êtes politiste, maîtresse de conférence à l'Université de technologie de Compiègne et vous êtes spécialiste des politiques numériques et de régulation d'Internet. Votre thèse portait d'ailleurs sur « Gouverner l'Internet, mobilisation, expertise et bureaucratie dans la fabrique des politiques numériques ». Et donc vous allez nous aider à y voir un petit peu plus clair sur les mécanismes évidemment qui sont en jeu sur les réseaux sociaux notamment et sur Internet en général. Et enfin, par téléphone également, Manuel Cervera-Marzal, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales et vos travaux portent notamment sur la désobéissance citoyenne. Mais vous aviez fait un petit pas de côté, ou peut-être pas, vous allez nous dire, en 2019, en publiant un essai, Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir, aux éditions du Bord de l'eau, un essai qui posait cette question provocante, comme son texte, comme son titre, devrais-je dire, dans le contexte actuel. Et si la post-vérité et son frère jumeau, le populisme, ne constituaient pas une menace pour la démocratie, mais au contraire, la possibilité de sa régénération. Ça donnera l'occasion d'en discuter. Alors, je vais commencer avec vous, Christophe Dola, par une première question, évidemment, puisque vous avez présenté cet ensemble de propositions. On ne va pas détailler les 250, ce serait absolument un petit peu long. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est pourquoi parler d'une infodémie ? Est-ce que, véritablement, à l'occasion, puisque ça fait longtemps qu'on parle de fake news, notamment, à l'occasion de cette épidémie de Covid-19, vous avez vu, constater quelque chose de particulier, ou en tout cas, ça vous a permis d'identifier des mécanismes qui, peut-être, jusque-là, étaient un petit peu cachés ?
L'infodémie, c'est un terme qui a été... C'est un néologisme qui a été créé par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et par le secrétaire général des Nations unies. C'est eux les premiers qui l'ont utilisé. Et donc il y a eu une inquiétude des autorités sanitaires internationales autour de la propagation de fausses informations qui pouvaient mettre en danger la santé publique. Et les extraits que vous avez passés sur les questions de vaccination... sur les accusations de complot de la part des autorités politiques, peuvent être dangereuses pour la santé publique. Mais ces infodémies, qui sont donc ces propagations de fausses informations, en fait, elles surviennent en temps de Covid-19, mais sans le Covid-19, et elles ne sont pas arrivées avec le Covid-19. Et donc, en fait, la problématique, elle est beaucoup plus large, c'est celle de ce nouvel espace public, qui est l'espace digital, dans lequel tous les contenus, et des contenus n'ayant rien à voir avec les autres, de la propagande d'État, de la publicité, du journalisme, de qualité, le cachet de moins bonne qualité, ce qu'était autrefois la conversation à la table du dimanche ou la conversation de bistrot, aujourd'hui tout ça est en concurrence directe. Et ça c'est totalement nouveau dans l'histoire des démocraties, et ça pose une question fondamentale qui est qu'est-ce qu'on fait de ça ? Comment on remet des garanties démocratiques sur la délibération publique ? Quelles doivent-elles être dans un espace digital qui est aujourd'hui globalisé ?
Et on va voir que ça n'a rien d'évident, parce que les solutions, c'est soit de s'en remettre aux plateformes elles-mêmes, soit de demander l'intervention des gouvernements, des États, mais ça peut être la même chose si ce sont des gouvernements démocratiques ou pas démocratiques. Vous êtes, je le disais, le secrétaire général de Reporters sans frontières, donc c'est des questions qui, évidemment, vous intéressent, Christophe Dola. Mais je voulais entendre Anne Bellon, justement, sur peut-être cette situation actuelle et ses mécanismes dans le cadre de cette nouvel espace public digital, tel que vient de le dire Christophe Dola, puisque c'est votre sujet, évidemment, d'analyse et d'étude, Anne Bellon. On parle aussi beaucoup d'infobésité, d'inflation des émetteurs d'informations qui rend un petit peu difficile, évidemment, le fait de s'y retrouver tout simplement dans toutes ces informations qui sont livrées au public.
Alors, c'est sûr que l'Internet et le développement du web ont eu un effet... ont provoqué des bouleversements sur l'organisation de l'espace public en premier lieu, en accélérant, et ça n'est pas la seule cause, mais la crise de légitimité des médias dominants. Ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose, et je pense qu'on en parlera plus tard, mais ça a aussi permis d'ouvrir d'autres espaces de discussion qui n'existaient pas jusqu'alors. À côté de ça, se développe un nouveau phénomène que moi je qualifierais plus de désinformation, mais ce qui est intéressant, c'est que les études montrent qu'il n'est pas seulement le propre des réseaux sociaux ou d'espace totalement à part ou alternatif de l'espace public. Il a parfois été endossé, et on l'a vu de manière assez spectaculaire avec la présidence de Trump, par des autorités très légitimes, comme la présidence américaine ou même le Parti républicain, qui ont contribué, par exemple, pour prendre un cas très récent, à diffuser depuis septembre l'idée que le vote par courrier pourrait être vecteur de fraude électorale plus importante. Donc je pense qu'il faut aussi restituer ça dans un contexte médiatique beaucoup plus large où les réseaux sociaux, le numérique n'est pas le seul responsable de ce développement des fausses informations.
Manuel Cervera-Marzal, j'ai dit vous étiez sociologue, vous êtes aussi philosophe. Qu'est-ce que vous évoque justement ces termes qui ont pas mal évolué ces dernières années, qu'on a beaucoup utilisé, d'infox, de fake news, mais aussi de post-vérité, puisque c'est là-dessus que vous avez écrit, c'est-à-dire ce cadre général dans lequel on évoluerait, qui serait caractérisé par finalement les émotions et les opinions plus que par les faits et la rationalité.
Alors moi, j'apprends à l'instant sur votre antenne ce néologisme d'infodémie. C'est vrai que, comme vous venez de le dire, il y a une inflation comme ça de tous ces termes qui supposent qu'on serait rentré dans une nouvelle période historique dans laquelle les gens ne s'appuieraient plus sur des faits objectifs et vérifiés, mais sur des opinions subjectives. Et alors moi, j'ai voulu prendre le contre-pied de ce constat, parce qu'il me paraissait beaucoup trop alarmiste le terme même de post-vérité, qui suppose que avec l'émergence des partis populistes ces dernières années, on serait vraiment passé dans l'ère du mensonge et des fake news. Ce terme, on peut le questionner. Si on est dans la post-vérité, ça veut dire quoi? Logiquement, ça veut dire qu'avant, on était dans la période de la vérité. Bon, est-ce qu'on peut vraiment dire que le XXe siècle, qui, je le rappelle au passage, était le siècle des régimes totalitaires, le siècle de l'invention de la propagande commerciale, le siècle du développement de l'industrie, de la communication publique, qui est pas forcément quelque chose de fait pour promouvoir la vérité, est-ce qu'on peut dire que le XXe siècle était le siècle de la vérité? J'en suis pas sûr. Et est-ce qu'on peut dire que le 21e siècle est le siècle des opinions, des fake news, etc.? J'en suis pas sûr non plus. Ça a très bien été dit à l'instant par Anne Bellon. Il y a derrière cette idée de post-vérité et d'infodémie vraiment, je crois, un procès à charge contre Internet. Internet, ce serait le mal. Internet serait la cause de la brutalisation du débat public, serait un espace où on déverserait tout un tas de théories complotistes et conspirationnistes. On peut pas nier ça, il y a de ça sur Internet, mais sur Internet, il y a du très mauvais comme du très bon. En fait, Internet, quand on regarde, il y a tout un tas d'études qui sont faites là-dessus. Internet, ça a tout simplement ouvert l'accès à la parole à des personnes qui auparavant ne l'avaient pas, parce qu'effectivement, auparavant, la parole était réservée quand même à certaines personnes autorisées, des experts à divers titres, et aujourd'hui elle s'est démocratisée grâce au net. Et je crois qu'il faut faire très attention, parce que souvent derrière ce procès de la post-vérité, c'est un procès d'Internet, et c'est au fond des attaques contre la démocratie et des attaques contre la parole du citoyen ordinaire.
Alors Christophe Deloire va vous répondre, Manuel Cervera-Marzal. Un procès contre Internet, Christophe Deloire, une réaction corporatiste des journalistes qui ne veulent pas perdre le monopole de la vérité, de ceux qui ont le droit, les sachants, comme on dit maintenant, de dire la vérité. C'est un premier écueil, évidemment, qui est souvent opposé quand on travaille sur ces questions-là. Alors, est-ce que concrètement, avec justement ce groupe de travail que vous avez animé, avec Reporters sans frontières, est-ce que vous avez concrètement la preuve qu'aujourd'hui, on est plus dans une ère de la post-vérité? Les fake news font plus de mal qu'on a pu faire la rumeur au XVIIIe siècle, par exemple.
Alors, là, je crois pouvoir parler sans parler en tant que journaliste. Et la question première n'est pas de défendre le journalisme. C'est la question de l'organisation de notre délibération publique. Le journalisme a un rôle à jouer, il est mis en question de manière très forte, il ne suscite plus la confiance d'une bonne partie de nos concitoyens, et ça c'est un enjeu. Mais plus largement, il y a donc la question de l'organisation de l'espace public. Ce qui est nouveau quand même, c'est que au fil de l'histoire des démocraties, et le XXe siècle, au moins dans sa deuxième partie, depuis 1945, a été le siècle de l'explosion du nombre de démocraties, puisqu'elles ont été multipliées en gros par 4 entre 1945 et 2000, leur nombre dans le monde. C'est un siècle dans lequel les démocraties, toutes les démocraties, ont organisé la délibération publique de manière non visible, j'allais dire, pour le grand public, par la régulation des médias. Alors, je vais donner quelques exemples. En France, à la Libération, est adoptée une loi qui s'appelle la loi Bichet, qui est une loi sur la distribution de la presse écrite. Personne ne connaît la loi Bichet. Mais c'est la loi qui garantit le pluralisme de la distribution de la presse dans les kiosques à journaux et chez tous les marchands de journaux. C'est la loi qui garantit que nos marchands de journaux ou le réseau de distribution au-dessus ne peut pas avoir de biais politiques, ne peut pas choisir en fonction des biais politiques. Donc c'est une loi qui est très sécurisante pour le débat public. Aujourd'hui, la personne qui décide de la distribution, qui édicte les règles de la distribution, c'est largement Mark Zuckerberg.
Sur Internet, donc vous
voulez dire. Sur Internet. Ou les patrons de Google, ou les patrons du Parti communiste chinois quand il s'agit de plateformes sous l'autorité du Parti communiste chinois. Et ça, c'est totalement nouveau dans l'histoire des démocraties. Donc, si on parle simplement des contenus,
de la propagande, de la désinformation, des manipulations, des mensonges, tout ça a toujours existé. Évidemment, c'est pas nouveau. Ça, c'est les symptômes. Enfin, les symptômes, c'est l'amplification de certains de ces phénomènes. Mais ce qui est plus sous-jacent et qui est invisible, mais qui finalement fonde notre débat démocratique, c'est ces garanties. Alors, le monde d'hier n'était pas parfait. Il y avait une forme de monopole des journalistes sur la communication publique, qu'il s'agisse des belligérants dans les guerres, des responsables publics, ça passait à travers ce filtre des journalistes, qui avait un certain nombre d'avantages et des inconvénients, et y compris avec certains phénomènes de domination, et qui peuvent pousser certains aujourd'hui à considérer que de la même manière qu'il y a un illibéralisme antidémocratique, il y a aussi un libéralisme antidémocratique.
Anne Bellon, qu'est-ce qu'on sait concrètement, que nous disent les sciences sociales, notamment sur cette nouveauté, cette inflation ou non de fake news, ce cadre du débat public nouveau?
Ce que je trouve intéressant dans cette prise de parole, c'est d'avoir déplacé le regard sur la régulation et son évolution. Et moi, c'est tout à fait ce qui m'intéresse dans mes travaux. Et vous avez raison, la régulation des médias existe depuis longtemps en France. Et justement, avec l'apparition d'Internet, le régulateur a fait le choix en France de mettre à part l'Internet et de protéger ces intermédiaires techniques qui vont devenir très puissants, que sont les plateformes. Mais la régulation des médias, elle a connu d'autres évolutions. Et par exemple, aux États-Unis, dans les années 1980, avec la grande vague de libéralisation, il y a eu une très forte dérégulation des médias qui a aussi permis l'apparition, pas d'Internet, mais aussi de médias comme Fox News, etc. Donc je pense en effet que là, il y a une vraie responsabilité d'une certaine façon politique qui est la grande dérégulation des médias qui n'a un peu rien à voir avec Internet et qui a permis, qui a favorisé l'apparition de nouveaux acteurs qui pouvaient s'adresser à une audience de niche sans respecter un pluralisme politique qui, pour le coup, en France, existe toujours pour les médias hors Internet.
Manuel Cervera-Marzal.
Oui, en tout cas, moi je pense que quand on veut réguler les prises de parole publiques, essayer d'encadrer la liberté d'expression au nom de la défense de la vérité, effectivement c'est une intention qui est tout à fait louable et on peut la comprendre. Mais le problème c'est les dérives qu'il y a derrière, c'est que je pense que, alors vous demandiez à qui revient ce rôle de régulation, c'est à mon avis pas aux États, c'est à mon avis pas au gouvernement, et c'est même pas au gouvernement démocratique, même dans le propre justement, je pense, de la démocratie par rapport aux autres régimes, c'est que on est dans un type de régime qui laisse la parole non seulement à ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, mais même à ceux qui peuvent professer des insanités, des propos qui peuvent nous choquer profondément, des propos qui peuvent même vraiment parfois en appeler à la haine. Je crois que le propre de la démocratie, c'est précisément de faire preuve d'une tolérance maximale vis-à-vis des propos dissidents, voire obscènes. Et je crois que la démocratie là-dessus s'abîme quand, à travers des lois comme la loi Avia dernièrement, qui avait d'ailleurs été censurée en partie par le Conseil constitutionnel, je crois que la démocratie s'abîme quand elle essaye de restreindre comme ça la liberté d'expression. Alors après, sur Internet. Alors après, il y a un deuxième type d'acteur qui peut intervenir, c'est effectivement les plateformes. Mais là, vous avez tout un tas de travaux sur notamment ces personnes de l'ombre, hein, qui sont les rateurs, c'est pas des robots qui font ça, hein. c'est des personnes qui sont payées pour surveiller ce qui se passe sur Internet, et ce qu'on voit c'est qu'il y a tout un tas de biais dans la censure qui est appliquée au contenu, de biais qui sont des biais économiques et des biais idéologiques. Il y a des biais économiques tout simplement parce que effectivement il s'agit pas ici de complot, mais tout simplement les personnes qui sont salariées par Google, par Facebook et autres pour sélectionner ce qui va passer ou pas, au final elles rendent des comptes à leurs supérieurs, et effectivement le filtrage se fait en fonction des intérêts de l'entreprise, puisqu'il faut jamais oublier qu'on parle d'entreprises qui sont des entreprises privées. Et il y a aussi derrière des biais tout à fait politiques. Je me souviens que au moment de Balance ton porc, il y avait une ministre, il me semble de mémoire, Nicole Belloubet, Qui avait dit balance ton porc, je trouve ça extrêmement violent, c'était ces termes. Est-ce que du coup ça veut dire que on décide, puisque c'était l'objectif à nouveau de la loi Ravia, que ce type de hashtag balance ton porc, on va les censurer. Bon voilà, je pense que c'est mettre le doigt dans un engrenage qui se veut vertueux mais qui en réalité peut nous amener sur une pente tout à fait glissante.
Alors justement, Christophe Deloire, parmi les axes des principales recommandations du groupe de travail qui a été dirigé par Reporters sans frontières sur information et démocratie, il y a cette réglementation publique qui serait nécessaire pour imposer des exigences de transparence aux fournisseurs de services en ligne. Donc en fait, sur un modèle de ce que vous venez de dire, c'est que ça viendrait des États, la puissance publique, vers les fournisseurs. En quoi est-ce que ce n'est pas mettre le doigt justement dans un engrenage tel que vient de le décrire Manuel Cervera-Marza, qui est problématique, puisqu'à partir de ce moment-là, c'est à qui revient le rôle de dire ce qu'est la vérité ou ce qui n'est pas la vérité, ce qui est dangereux ou qui n'est pas dangereux.
Il y a un dicton à l'Assemblée nationale qui dit que quand on statue et qu'on légifère sur la liberté d'expression, il faut le faire d'une plume tremblante. Évidemment, c'est une ligne de crête. Et il y a des dangers de toutes parts. Mais la question, précisément, en revenant sur celle des biais, sur le fait qu'il y a des biais algorithmiques. Moi, je pense qu'il ne faut pas entrer dans telle personne a dit telle chose et ça prouve que... Je pense qu'on peut tous avoir une opinion commune, enfin même une intention commune, c'est de faire en sorte que les plateformes n'aient pas de biais politiques. Et la question, c'est comment on fait et qui peut le faire ? Pour ne prendre que ce seul exemple. Et ça, au fond, à la fin, ça revient nécessairement au Parlement démocratique. Personne d'autre n'est en capacité de le faire. Et ça n'est pas l'autorégulation des plateformes qui nous prémunira que telle ou telle plateforme est un biais. Les plateformes chinoises, elles ont des biais. Et les plateformes californiennes, elles peuvent avoir des biais qui sont celles des intérêts commerciaux.
Oui, ce que j'allais vous dire, les biais ne sont pas forcément des biais politiques, ça peut être aussi des biais commerciaux. C'est le livre de Sarah T. Roberts, qui est une chercheuse du UCLA, qui vient d'être publiée aux éditions La Découverte, le montre très très bien sur les modérateurs, mais, justement.
Alors, ça peut être commercial, ça peut être aussi politique. Supposons que demain, Mark Zuckerberg se présente à la présidentielle américaine, ou qu'il ne le fasse pas. Aujourd'hui, rien ne l'empêche de mettre un biais dans son algorithme. C'est vertigineux. Et donc... Et ces règles, en plus de cet espace, aujourd'hui, dictées par ces compagnies, elles sont pas transparentes. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant on avait des lois qui, au lieu d'être adoptées par le Parlement, le sont par Mark Zuckerberg et les autres, je le cite parce que c'est le plus emblématique. Donc, il adopte les lois, elles ne sont pas transparentes, on n'a aucune garantie sur la manière dont il les utilise, parce que c'est lui qui applique ses propres lois. Il a remplacé nos parlements, nos appareils judiciaires, et également... nos organes de régulation, ceux
c'est
qui
à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire.
Et donc, l'idée du Forum sur l'information et la démocratie et de cette initiative, c'est sur la base de visions qui sont développées par des chercheurs, des juristes, des gens de profils très différents dans l'ensemble du monde, ce qu'on a essayé de créer, en fait, c'est une espèce de GIEC de l'information, donc de formuler de la proposition.
Le GIEC n'empêche pas les climato-sceptiques, hein, vous aurez noté.
Mais absolument pas, mais il peut favoriser des politiques publiques. Et donc là, l'enjeu, c'est on s'est posé la question, on reviendra jamais au monde d'hier, et ça n'est pas souhaitable, ni possible ni souhaitable. Donc comment, quels doivent être les principes aujourd'hui? Et donc on a développé, par exemple, sur des champs différents, sur quoi les plateformes doivent être transparentes. Elles, leurs algorithmes, leurs partenariats commerciaux, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces messageries privées qui aujourd'hui permettent d'entrer dans des logiques d'espace public? Comment on fait, qu'est-ce qu'on impose s'agissant des plateformes quand on leur délègue la censure? Parce qu'en fait, on leur délègue la censure. Et enfin, comment elles promeuvent la fiabilité de l'information?
La catégorie la plus notable en ce moment, c'est celle qui s'interroge sur l'origine et qui dit que le virus s'était créé en laboratoire, artificiellement. Elle est perturbante, cette théorie du complot, parce que d'abord, elle apparaît très tôt, y compris dans le sondage Conspiracy Watch. 26% des Français croyaient déjà au mois de mars, c'est-à-dire avant le confinement, au début du mois de mars, à cette théorie du complot. Sauf qu'entre-temps, le 17 mars, c'est-à-dire jour du confinement, il y a eu un article qui est apparu dans la revue Nature et qui montre à peu près indiscutablement que l'origine du virus, elle est naturelle. Le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre fermement aujourd'hui parce que ça pourrait être un virus naturel, mais qui aurait quand même pu être, disons, développé en laboratoire, examiné en laboratoire, et que ce virus se soit échappé. Mais effectivement, cette croyance-là est particulièrement perturbante, parce que c'est peut-être celle qui peut siphonner un certain nombre d'individus, en quelque sorte, qui ne sont pas prédisposés à croire à la théorie du complot.
Alors qui sont ces gens ?
Des gens tout à fait ordinaires et qui se posent des questions, on a le droit de se poser des questions dans la vie, et qui peuvent C'est vrai aussi, avoir une sensibilité politique, parce que le virus, on l'a dit, il n'est pas neutre politiquement. Sondage après sondage, et on l'a vu par exemple avec l'affaire de la chloroquine, hein, oui. On sache s'il est efficace ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on a posé la question aux Français, est-ce que vous pensez que la chloroquine est efficace ou pas, il n'y a que 20% des Français, dont je me sens faire partie, qui ont simplement dit « je ne sais pas », ce qui était la seule réponse raisonnable à donner. Ceux qui y croyaient, qui avaient envie de croire en réalité, bah, c'est plutôt des gens de la radicalité politique, on va dire Rassemblement National, et surtout la France Insoumise. 80% des gens se déclarant gilets jaunes croyaient que la chloroquine était efficace.
Voilà, le sociologue Gérald Brunner, c'était dans l'émission quotidien d'Yann Barthès. Il était aussi l'invité tout à l'heure d'Ali Badou sur France Inter. Ce sociologue qui travaille sur la question de la post-vérité, qui nous dit le complotisme, ces questions de remise en cause de la vérité, Anne Bellon n'est pas neutre politiquement. Ce qui m'amène à vous poser la question, puisqu'il y a tout un débat en ce moment sur ce documentaire Hold Up, qui est sorti sur Internet et qui est très critiqué, notamment dans les médias traditionnels, qui ont fait un gros travail comme Le Monde ou Libération de ce qu'on appelle le debunking, d'aller chercher les contre-vérités dans ce documentaire. Et donc à vous demander, Anne Bellon, si la post-vérité a une couleur politique.
Alors, les études montrent qu'elle en a. Alors, en fonction des pays, je peux pas forcément me prononcer, mais on voit en tout cas que
parlons de la France,
France
déjà.
Et aux États-Unis, voilà, ce sont plus des formes de manipulation de l'information qui existent plutôt dans les sphères de droite, voire d'extrême droite. Alors, pour ce qui est de les attaquer, ce qui est intéressant, c'est que les travaux de sciences sociales montrent aussi que le debunking est en fait très peu efficace. Puisque les gens qui s'y intéressent, enfin, qui vont regarder des sites comme les décodeurs ou d'autres propositions d'analyse de l'information créée par des journalistes, sont en fait ceux qui sont le moins enclins à croire à ces formes de désinformation. Donc du coup, on arrive un peu à une impasse qui renvoie à cette problématique de la régulation. Et pour revenir sur ce qui était dit juste avant que vous passiez cet extrait, ce qui est compliqué, c'est que là on mélange beaucoup de choses. Et en fait, si on essaie de résumer, il y a un petit peu trois solutions qui peuvent se combiner. Il y a déléguer toute la régulation aux plateformes, ce qui avait été le choix fait au début d'Internet. Rendre les pouvoirs publics responsables de cette régulation, ce qui est de plus en plus en train d'être aussi fait en ce moment avec le renfort des pouvoirs, par exemple en France, du CSA sur Internet, ou confier ce pouvoir de régulation à des commissions indépendantes comme ça qui vont être chargées d'en définir les principes. Et on voit qu'il y a des combinaisons un peu étranges parce que, par exemple, Facebook a aussi créé un conseil de surveillance avec des personnalités dont certaines, en termes de parcours, peuvent aussi ressembler à celles créées par Reporters sans frontières. Donc on voit bien qu'on est dans un moment un peu comme ça, fluctuant, où de nouveaux principes sont en train d'être élaborés et qu'on n'est pas encore arrivé à une stabilisation complète de ce que va être la régulation des contenus sur Internet.
Manuel Cervera, Marzal, on l'entendait, hein, Gérald Brunner qui faisait référence, sans le dire dans cet extrait, à la fondation, à une étude de la Fondation Jean Jaurès, hein, qui montrait que, en effet, les électeurs du Rassemblement National ou de la France Insoumise seraient plus perméables aux théories du complot. On a beaucoup pointé du doigt les gilets jaunes, il l'a fait aussi dans cet extrait, Gérald Brunner, pour notamment leur appétence pour les fake news, sous couvert de ce qui s'appelle c'est appelé les médias citoyens. Donc on voit qu'il y a une forme de politisation aussi de cette accusation ou de cette reprise des fake news.
Oui, vous savez, on dit que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Et quand on veut brider la parole des classes populaires, on les accuse de tomber dans les fake news et le complotisme. C'est un peu la même rhétorique. Je voudrais revenir peut-être sur l'histoire de cette notion de post-vérité, parce que c'est jamais inintéressant quand on utilise un mot comme celui-là qui est en train de s'imposer vraiment dans le débat public, de savoir un peu par qui, quand, où il a été créé, parce que ça peut nous donner aussi des indications sur les intérêts tout simplement que sert ce terme. Et en fait, moi j'ai remonté comme ça de fil en aiguille pour essayer de voir un peu les toutes premières occurrences de ce terme, donc c'était en anglais évidemment, post-truth, et c'est très intéressant parce que c'est un mot qui apparaît dans les années 80 aux États-Unis. et qui est vraiment, c'est un néologisme qui est forgé par des intellectuels néoconservateurs. Donc voilà, on est vraiment dans la droite dure de l'époque. Alors pas encore trumpisé, mais ça vient de cette famille politique-là. Et ces gens-là parlent de post-vérité pour accuser précisément la gauche, aussi bien la gauche des mouvements contestataires, donc voilà, contre le Vietnam, droit civique, etc., que la gauche intellectuelle, la gauche des campus, celle qui s'est abreuvée de théorie de la déconstruction, et en fait c'est cette gauche là qui sort des années 70 plutôt en position de force, parce que voilà, elle a été très très vivante, et il y a une réaction dans les années 80 où les néoconservateurs vont accuser cette gauche de nous avoir précipité toute la société dans la post-vérité. Pourquoi? Parce que à force de dire que la vérité serait quelque chose d'illusoire, voire d'impérialiste, à force de dire que derrière tout savoir il y aurait un pouvoir, finalement c'est la gauche qui nous aurait plongé dans l'ère du relativisme, voilà, tout se vaut, il y a plus de vérité. Donc revenir un petit peu sur cette histoire, voilà, je crois que c'est
important, mais ça dit pas ce qu'est la post-vérité, en tout cas ce qu'on met derrière ce terme de post-vérité aujourd'hui. Manuel Cervera-Marzal, ce que je veux dire par là, c'est par exemple
derrière le mot de ce que Gérald Brunner par exemple. Ce que Gérald Brunner, par exemple, met derrière la post-vérité aujourd'hui, c'est l'idée qu'on est dans une société décrédule, voilà, où, alors lui, évidemment pas, les personnes avec lesquelles il collabore dans les conseils scientifiques des multinationales où il siège, évidemment pas, ces gens-là, ses amis journalistes non plus, ces gens-là sont dans la vérité, bien sûr, mais par contre, la majorité des citoyens qui votent France Insoumise ou Rassemblement National, comme il le disait, ces gens-là, eux, sont dans la crédulité. Mais en fait, ce constat, il est, enfin, bon, il faudrait plus de temps pour en parler. Mais je veux dire, c'est politiquement extrêmement orienté. C'est politiquement extrêmement orienté. Et par ailleurs, je crois que c'est tout simplement faux, parce que on est aujourd'hui, alors je ne nie pas qu'il y a peut-être une montée effectivement de certaines croyances complotistes, mais on est quand même historiquement, si on prend un peu de recul à l'échelle des siècles, voire des millénaires, on est dans le type de société qui sont les plus éduqués, les plus informés, les plus individualistes aussi, au bon sens du terme, hein, l'individualisme au sens de voilà, je pense par moi-même, je pense contre moi-même, je ne prends pas pour acquis ce qu'on me dessert. Parce qu'il y a aussi un autre point dont on n'a pas parlé, c'est que peut-être effectivement qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent sur les réseaux sociaux, mais c'est pas parce que une fake news circule que les gens qui la reçoivent y croient, adhèrent, y souscrivent. Voilà, il y a beaucoup de travaux de sociologie de la réception qui montrent qu'il suffit pas de balancer une information fausse pour que les gens, comme des espèces d'huîtres ou de réceptacle passif, adhère à cette information. Vous avez même des gens qui partagent des Facebook juste voilà pour qui des fake news juste pour s'amuser, mais pas forcément parce qu'ils y croient, quoi.
France Culture, le temps du débat du samedi. Raphaël Bourgois.
Un temps du débat consacré aux fake news. Qui détient la vérité? On en discute avec Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières, Anne Bellon qui est politiste, et Manuel Cervera-Marzal qui est sociologue et qu'on vient d'entendre, et qui, je suis sûr, vous voulez répondre, Christophe Deloire, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'intervention de Manuel Cervera-Marzal.
Mais moi, il y a beaucoup de choses que je partage. Et je ne sais pas si j'ai bien compris, mais en tout cas, je crois qu'il convient de surtout pas politiser cette question. Et que ce soit pas un camp contre un autre, au motif qu'un camp détiendrait plus la vérité qu'un autre. Ça, c'est effectivement absurde, et c'est même dangereux politiquement. Parce que ça donnera, le jour où on redébattra des conditions de notre délibération, en fait, on sera totalement clivé. Plutôt que se mettre au moins d'accord sur comment on gère nos désaccords. Les plateformes, elles ont évolué. En 2000, il y a une directive qui a été adoptée en Europe, qui est la directive e-commerce, qui à l'époque a prévu l'irresponsabilité des plateformes, au motif que c'était des tuyaux et qu'il fallait surtout pas leur faire peser de responsabilité éditoriale. Et je dirais presque qu'à l'époque, c'était bien vu. Parce qu'elles étaient essentiellement ça. Et que si on leur avait imposé une responsabilité éditoriale, elles auraient pu faire des choix éditoriaux, ce qui aurait été très dangereux. Aujourd'hui, il faut surtout pas leur donner la possibilité de faire des choix éditoriaux, mais on découvre qu'elles ne font pas que porter l'information, qu'elles organisent ce qu'on voit, ce qu'on voit pas, elles hiérarchisent, etc. Elles organisent l'espace public, et donc ça doit être assorti d'un nouveau type de responsabilité très particulière, et qui ne sont pas du tout les mêmes responsabilités que les médias. Et il y a une chose qu'il faut reconstruire, c'est quand même une forme de méthodologie de la vérité. Parce que l'absence de méthodologie de la vérité, c'est-à-dire de règles pour essayer d'établir les faits, de règles éthiques pour prohiber les conflits d'intérêts, c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, si on regarde, la déontologie journalistique, elle s'est construite à partir de la Première Guerre mondiale, parce que le journalisme avait conduit à la Première Guerre mondiale. Et à partir de là, il y a eu un développement de la déontologie qui a permis d'apporter une amélioration de la qualité de l'information. aujourd'hui, comment on reconstruit ça? Comment on traite la question des droits et des devoirs de chacun, des responsabilités au regard de la liberté d'expression? Et la responsabilité, c'est un terme très fort en matière de liberté d'expression, y compris dans le droit international. Ça, c'est une question où il faut trouver des initiatives très précises et très concrètes.
Anne Bellon, justement, puisque vous avez travaillé, vous, hein, sur les formes de gouvernance et de mobilisation et d'expertise aussi sur Internet, dans les politiques numériques, ce rôle de gardien de la vérité, de gardien de la rationalité qui peut être parfois attribué aux journalistes, est-ce que vous avez le sentiment que c'est possible de retrouver cette forme-là, de cette fonction-là du journalisme, parce qu'on en est complètement sorti?
Je pense pas qu'on en est sorti, et fort heureusement, il y a encore des articles journalistiques et des médias de très grande qualité. Après, pour le coup, là, ça dépasse complètement la question du numérique. Je pense que voilà, il y a des travaux comme ceux de Julia Cagé sur la concentration très forte qu'on observe en ce moment dans les médias, qui sont aussi des dimensions économiques, pour le coup, cette fois, de la crise que traverse aujourd'hui cet espace médiatique. Après, bien entendu, il y a aussi, pour le coup, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, la nécessité de reconstruire une méthodologie, moi je dirais pas forcément de la vérité, mais d'une méthodologie critique qui, je pense, passe beaucoup par l'éducation aussi, et qui, bien sûr, on voit, peut être menacée encore aujourd'hui, quand on va accuser les universitaires de faire de l'islamo-gauchisme. Là, on met aussi en danger des fonctions qu'ont l'éducation d'aborder des textes et d'être capable de déconstruire des faits qui ont été construits comme des vérités et que pourtant on peut rehistoriciser, contextualiser pour les aborder en citoyens éclairés.
Un mot tout de même avant de faire réagir Manuel Cervera-Marzal, Christophe Delors, juste pour continuer, avoir une idée très claire en effet de votre conception, de ce que vous avez développé sur cette question de la post-vérité. C'est vrai qu'on peut interroger aussi les médias traditionnels, leur fonction. Je pense à ce qui s'est passé pendant au jour des élections présidentielles américaines, où pendant que Donald Trump faisait son premier discours en quelque sorte le soir des élections, il a été coupé par un certain nombre de médias dans le débat public, MSNBC notamment, pour avec un journaliste qui dit on est obligé d'arrêter le président américain parce qu'il dit il dit une série de contre-vérités et donc ça met en danger la démocratie, et ça a beaucoup fait débat. Est-ce que c'est le rôle des journalistes d'arrêter en direct un président des États-Unis, quel qu'il soit, quel que soit son propos?
Moi, je sais pas s'ils ont bien ou mal fait de le faire, mais et donc je me suis beaucoup posé la question, et puis j'ai fini par conclure que c'était leur liberté éditoriale au fond, qui n'était pas obligé d'être soumis au discours du président, et que ça vaudrait pour n'importe quel discours, il devrait pouvoir décider de l'interrompre si besoin. Il y a une chose qui se passe aux États-Unis qui est très intéressante, et où il y a un clivage très important entre les républicains et les démocrates, c'est que Donald Trump a remis en question le statut des plateformes en demandant une révision de ce qu'on appelle la Section 230, qui est...
Ça devient technique.
Qui est le texte de base qui régule les plateformes aux États-Unis, en disant ça va plus, elles ont des biais. Alors, il l'a fait d'une perspective républicaine, sous-entendu, elles ont des biais démocrates. Au fond, il a rouvert un débat parfaitement légitime, juridique, mais sans doute pour des raisons évidemment qui lui étaient très personnelles. Et à l'inverse, quelle a été la réaction des démocrates? C'est de soutenir inconditionnellement les patrons des plateformes. Ce qui est un peu saugrenu. Et un peu dangereux, parce qu'on s'est retrouvé on se retrouve aujourd'hui dans la situation où on a des plateformes numériques qui indiquent si ce que dit un tel, généralement Trump ou quelques autres, est vrai ou faux, ou qui disent faites attention. Mais que les plateformes aient ce pouvoir-là, ça, c'est assez dément et dangereux. Alors aujourd'hui, dans l'urgence,
c'est ce qu'on attendait aussi. On leur demande de ne pas diffuser de fake news, d'indiquer quand peut orienter.
C'est extrêmement dangereux. Si on laisse le pouvoir aux États de décider ce qui est vrai ou faux, c'est également dangereux si on laisse ce pouvoir aux plateformes. Et donc, quand je parlais de méthodologie de la vérité, c'est une méthodologie collective, j'entendais pas au sens individuel. C'est recréer des règles des mécanismes qui permettent de promouvoir la fiabilité de l'information. Ça, on a lancé la Journalism Trust Initiative, qui est très concrète, qui devrait permettre d'introduire un facteur intégrité dans l'indexation algorithmique.
Alors, Manuel Cervera-Marzal, peut-être qu'on touche du doigt quelque chose qui pourrait permettre de faire avancer un peu le débat, c'est-à-dire non pas dire ce sont des individus par leur fonction, hein, soit parce qu'ils sont scientifiques, soit parce qu'ils sont journalistes, soit parce qu'ils sont des hommes ou des femmes politiques qui peuvent dire la vérité, mais peut-être réintroduire dans l'espace public et dans le débat public des mécanismes de construction et de validation de la vérité. Est-ce que là, on trouve un point d'accord, peut-être, un terrain sur lequel vous pourriez être d'accord avec ce que vient de dire Christophe Deloire, Manuel Cervera-Marzal ?
Oui, alors, de toute façon, je pense qu'il y a un point qui est vraiment important, c'est que la vérité, il n'y a jamais une personne qui la détient, il n'y a même pas non plus une institution ou une instance qui la détient. La vérité, je crois qu'elle est le fruit d'une délibération collective, en fait. La vérité,
même si
c'est
je vous arrête,
quelque chose qui se construit pas.
Je vous arrête deux secondes, Manuel Cervera-Marzal. Ce qui est compliqué, c'est que quand on parle de vérité et de post-vérité aujourd'hui, c'est qu'il y a même une remise en cause des faits. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on parle de vérité politique, on peut se mettre d'accord pour dire que c'est normal d'en débattre. La vérité des faits, ça devient plus problématique, notamment là sur. Là, je parlais de ce documentaire Hold Up sur la question de l'épidémie de Covid-19. On est au cœur de cette question-là.
Ah non, mais là, quand on remet en cause des faits aussi bruts et aussi massifs que ce que fait ce documentaire Hold Up, là, effectivement, ce qu'on est en train de faire, c'est de saper les bases mêmes de la démocratie. Ça, il y a absolument aucun doute là-dessus. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on combat ces fake news qui ont beau être extrêmement grossières, qui marchent effectivement, qui prennent auprès d'un certain nombre de personnes. Et là-dessus, moi, je voudrais revenir sur ce débat qui s'était enclenché tout à l'heure sur le fact-checking, une pratique qui s'est beaucoup développée dans les grands médias, notamment la presse écrite, depuis une décennie. Moi, je pense que c'est nécessaire de fact-checker, c'est nécessaire de montrer que dans ce documentaire Hold Up, il y a voilà un mensonge toutes les 5 minutes et que dans les tweets de Trump, il y a, comme l'avait montré le New York Times, en moyenne 4 mensonges par jour. Je pense que c'est nécessaire. Mais c'est absolument pas suffisant. C'est ça, je pense, le point. C'est que on combattra pas Trump de manière efficace en se contentant de lui opposer des faits ou des faits véridiques face à ses mensonges, parce que précisément, ce que Trump vend à ses électeurs, c'est plus que une question de fait, de vérité ou de mensonge. Il leur vend un récit, il leur vend une identité, il leur vend des rêves, il leur vend un imaginaire dans lequel, voilà, cette espèce de grand récit dans lequel vous, mes électeurs, vous êtes des pauvres petits blancs maltraités par des mondialistes qui ouvrent les frontières, qui ceci, cela. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose que les démocrates en général, j'allais dire la gauche, mais je vais même être plus large que la gauche, les démocrates en général ont perdu de vue, c'est que pour faire adhérer à la démocratie et à la vérité, qui sont à mon avis deux idéaux extrêmement liés hein, dans l'histoire, quand il y a des progrès démocratiques de masse, comme les révolutions du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est aussi les moments où il y a des progrès scientifiques importants, ou même quand on pense à l'Athènes démocratique, c'est le moment où on invente l'arithmétique, la biologie, etc. Il y a vraiment un lien étroit, je crois, entre vérité et démocratie. Mais du coup, pour combattre aujourd'hui les ennemis de la vérité et de la démocratie, il suffit pas de leur opposer des faits. Voilà, je crois qu'il faut vraiment leur opposer un grand récit, comme on appelait ça au siècle passé. Il faut leur opposer un imaginaire, et ça, c'est pas c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Mais voilà, il faut reconstruire quelque chose autour de ça.
On sait que l'ennemi de la démocratie, c'est évidemment la démagogie pour les philosophes grecs que vous venez de citer, évidemment, Manuel Cervera-Marzal. Alors Anne Bellon, vous nous avez dit tout à l'heure la lutte contre les fake news, c'est-à-dire notamment le debunking, ce que fait notre camarade Nicolas Martin en faisant les idées claires pour France Culture ou cette radiographie du coronavirus. Finalement, ça ne sert à rien, c'est-à-dire rapporter la réalité des faits, ça n'a pas d'utilité pour réparer en quelque sorte l'espace public et construire une forme de vérité au service de tous. Anne Bellon ?
Alors ça ne sert pas à rien. Je pense que déjà ça sert parce que tout un chacun, on peut être soumis à des informations et on a besoin qu'elles soient falsifiables et de les vérifier. Donc ça ne sert pas à rien. Après, ça n'atteint sûrement pas l'audience que ça souhaiterait atteindre. Je pense que c'est plus là le limite du debunking. Donc, en effet, là, dans les solutions, bon, tout le monde se penche sur cette grande question. La Commission Information et Démocratie a déjà fourni 250 propositions, donc on a matière à faire. Il y a cette idée que on revenait rappeler de construction d'un nouveau grand récit mobilisateur de la démocratie. Ce qui est intéressant, c'est l'avènement du web l'a été à un moment fourni aussi. On a parlé de démocratie Internet, on a vu dans ces dispositifs technologiques des moyens de régénérer la démocratie. Donc je pense qu'il faut réussir à articuler ces différentes solutions en n'oubliant pas, en ne mettant pas à part l'espace public numérique qui est en fait complètement interpénétré de l'espace public plus traditionnel et médiatique qui lui-même a subi de grandes dérégulations. Et surtout en parvenant, et je pense que c'est vraiment ça le débat, c'est qu'aujourd'hui, on écrit un peu partout qu'il faut, il faut que les algorithmes soient plus transparents, il faut qu'on contrôle davantage la modération effectuée par les plateformes, mais on parle bien souvent d'États qui ont perdu, qui diminue en fait les budgets alloués à qui l'ont perdu et qui aussi parfois ne se donnent pas les moyens de créer ces débats et pour faire face à Facebook ou Google, il faut, je pense, en tant que puissance publique, en tant qu'État, s'en donner les moyens.
Réactiver la puissance publique.
Les agences ne l'ont pas tout à fait. Quand on voit ce que fait le CSA pour auditer les algorithmes de YouTube, c'est bon.
Oui.
Ils ne sont pas suffisamment armés.
Christophe Deloire, on arrive à la fin de cette émission et je vais quand même vous poser une question qui, à mon avis, est aussi au cœur de tout ça, puisque vous avez parlé tout à l'heure de politique éditoriale, de choix éditoriaux. Est-ce que, finalement, réguler, modérer, c'est censurer? Parce qu'on entend souvent, ça sur les réseaux sociaux, notamment de la part des zélateurs du complotisme, de dire, on m'a censuré, on ne me laisse pas parler. Et donc, c'est quelque chose auquel on s'expose aussi, forcément, quand on veut réguler, retirer des contenus sur Internet.
Sur ces questions-là, on est en train d'arriver à un moment de vérité, parce qu'il y a un texte européen, le Digital Services Act, en préparation, et que cette question-là, elle est au cœur du sujet. Dans les sociétés, il y a besoin de censure. Il y a des exceptions légitimes, des restrictions légitimes de la liberté d'expression, l'appel à la haine, etc. Aujourd'hui, on a d'une certaine manière délégué l'exercice de cette censure aux plateformes, et qui peuvent surcensurer ou sous-censurer, la question c'est comment on arrive à maîtriser ça. Donc il y a la distinction entre l'illicite, qui est l'exception, et tout ce qui est licite. Et les mensonges, les opinions, les émotions, tout ça fait partie du licite, évidemment. Et les faits. Et il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui est permis par la liberté d'expression et de l'organisation. Et comment on reconstruit les procédures. Parce qu'en fait, il y a deux types de régulation. Il y a la régulation qui est une régulation de contenu, qui vise à dire comment on sort des contenus. Et il y en a une autre qui est une régulation de marché, qui est une régulation d'organisation, qui vise à dire comment doivent fonctionner les algorithmes. Ça sera très compliqué, l'évolution de la régulation de contenu. Il y a d'ailleurs une chose qui est un peu dangereuse en ce moment, c'est qu'au-delà de l'illicite, il y a une notion qui est en train d'être développée dans les négociations entre les pays européens, qui est la question de contenu préjudiciable. Alors là, ça peut être une piste un peu dangereuse. De comment on les écarte, on les réduit, etc. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est être beaucoup plus strict, mais là très fort, sur les procédures qu'on impose aux plateformes, et qui là sont des procédures transparentes, les mêmes pour tous, pas orientées politiquement. Et ça, aujourd'hui, il y a de la matière. Peut-être que notre débat, il a semblé théorique. Là, on a parlé de 250 recommandations, mais c'est des choses très précises. C'est presque de la matière première pour la loi. Tout ça existe aujourd'hui. Maintenant, il faut de la volonté politique et de la résistance aussi au lobbying des plateformes.
Alors, c'est pas uniquement théorique, Christophe Deloire, puisque évidemment, il était question pendant ce débat aussi de savoir s'il fallait retirer, pas retirer, qu'il fallait confier la régulation de l'espace public. C'est évidemment une question importante dont on n'a pas fini de débattre. Merci beaucoup, donc, Christophe Deloire. Je renvoie évidemment vers le site du Forum Information et Démocratie pour ceux qui voudraient se plonger dans les 250 recommandations qu'on n'a évidemment pas pu détailler ici ce soir. Merci à vous aussi, Anne Bellon et Manuel Cervera-Marzal. Je rappelle, Post-Vérité, pourquoi il faut s'en réjouir, c'est aux éditions du Bord de l'eau. Merci à Vanessa Nadjar qui a assuré la réalisation ce soir et Alex Dang qui était à la prise de son. Sophie Catherine Gallet-Maïdé a préparé cette émission, qu'elle en soit également ici remerciée. Lundi, dans le temps du débat, Emmanuel Laurentin posera cette question: proposition de loi sécurité globale, la bataille des images, point d'interrogation. Il en parlera avec Cécile Coudriou de Amnesty France, Thomas Rudigos qui est député LREM et Alicia Mazouz, maîtresse de conférence en droit privé à l'Université catholique de Lille. Mais avant cela, un autre magazine d'actualité. Demain, l'Esprit public Musique en direct de l'Espace Cardin, Théâtre de la Ville. Évidemment, vous ne pourrez le suivre que sur le site du Théâtre de la Ville, YouTube ou Facebook. Deux questions posées par Émilie Aubry. Trump, un déni de démocratie. Confinement prolongé, quel horizon? Voilà, c'est demain à 11h, demain dimanche. Bon week-end d'ici là à tous et à toutes à l'écoute de France Culture. Tout de suite, on retrouve Hervé Gardette, c'est politique.